jour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour mettre nos langues en question aujourd'hui, en nous demandant comment raconter l'histoire des langues, plus de 6000 parlées actuellement de par le monde, comment appréhender une telle diversité, une telle inventivité et une telle porosité entre les langues et les peuples qui les parlent. Qu'est-ce que nos langues disent de nous, de la construction de nos peuples et de nos identités, et pourquoi remonter le fil de cette histoire linguistique, géographique, nous entraîne sur tant d'autres terrains géopolitiques, sociaux, économiques, culturels. Voilà ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec notre invité, l'historien et géographe Jean Cellier, qui vient de publier une monumentale histoire des langues et des peuples qui les parlent, un formidable voyage dans le temps et dans l'espace, du sanskrit, de l'hébreu ou du chinois, jusqu'au créole et pidgin, en passant par l'arabe, l'anglais, le français, mais aussi le persan, le wolof ou le quechua, autour de la question « Pourquoi raconter l'histoire des langues ?» raconter l'histoire des peuples qui les parlent. Bienvenue dans toutes nos langues sur RFI.
Bon, alors allez-y, je vous écoute.
Ana bitkallem arabi.
My mother tongue is English.
Langue maman moi, c'est créole, donc c'est ça en capale.
Continuez, ça me passionne.
Zaboniman farsi.
Tom able to be kind to Skelga.
Ensuite.
Govorim srpsko-hrvatski, moj materni jezik je srpsko-hrvatski.
To je dang noj tim vjet.
Moj rodinni jezik to polski.
Naweza kuongea ki swahili kidogo.
Mijn moedertaal is Nederlands, dus ik spreek Nederlands.
Bien sûr, je parle français.
Ton beira kwa mi amori.
Bienvenue sur RFI, Jean Cellier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur notre antenne en français pour partager cette formidable histoire des langues et des peuples qui les parlent, un ouvrage monumental qui devrait faire référence. 700 pages, près de 70 cartes et illustrations pour 5000 ans d'histoire de toutes les langues du monde ou presque, celles dont vous avez pu en tout cas reconstituer l'histoire. Un vrai travail de titan, passionnant. Il faut dire, Jean Cellier, que le géographe et historien que vous êtes est familier de ce genre d'exercice, voire de défi, déjà relevé pour la série des Atlas des Peuples, dont vous êtes l'auteur également. Mais tout de même, pourquoi et comment vous vous êtes lancé dans une aussi formidable aventure historique avant d'être linguistique, finalement?
Bien, les Atlas des Peuples, que j'ai rédigés dans les années 90 et début des années 2000, sont essentiellement des ouvrages d'histoire. Et comme le titre Atlas des peuples signifie qu'on raconte l'histoire de chacun des peuples, or, pour caractériser les peuples, il m'est apparu au fil de mes travaux que la langue était le critère le plus déterminant ou en tout cas le plus communément retenu. Bon. Les Estoniens parlent estonien, les Slovaques parlent slovaque, etc. Bon. Donc, il m'est apparu, après avoir raconté l'histoire des peuples, en 6 volumes, en fait, que les langues étaient peut-être un sujet de cette histoire et qu'on pouvait reprendre cette histoire sous un autre angle, en entrant par les langues et non par les différentes peuples.
Finalement, ce sont les langues qui font quoi? Le ciment des peuples, notre identité, ce sont nos langues, même si les frontières sont dans certaines régions très floues, mais ce sont les langues qui font les peuples, finalement.
Ce ne sont pas vraiment les langues qui font les peuples, c'est l'histoire qui façonne les peuples de génération en génération. Mais d'une façon très générale, la langue qui est un facteur d'identité dans la mesure où je parle français, vous parlez français, nous sommes français, bon, et nous sommes des millions dans ce cas. C'est un concept qui doit être manipulé avec précaution parce que il est parfaitement clair, disons dans son centre, au cœur, le cœur est clair, mais sur les marges, c'est très flou. Et donc, il faut être habile.
Très mesuré. Et faire attention aussi, évidemment, à l'idéologie. Oui. Mais pour faire l'histoire d'une langue, une langue, il faut qu'elle soit écrite ou une langue, c'est d'abord orale, quand même?
Une langue, c'est d'abord parler. Donc, cette histoire est une histoire des langues parlées. Mais Mais il se trouve que pour faire de l'histoire, il faut disposer de documents d'histoire ancienne. Il faut disposer de documents, et ces documents, bien évidemment, ils sont écrits. Donc, tout l'exercice consiste, à partir des écrits, à essayer de reconstituer l'histoire de langues dont on sait qu'elles étaient parlées avant d'être écrites, et qu'elles ont continué d'être parlées avant d'être écrites.
Et donc, voilà pourquoi vous avez séparé finalement en trois grandes parties,
oui.
Un peu chronologique, mais pas seulement, pas géographique non plus.
Il y a trois, oui.
Mais ces trois parties finalement avant l'écriture.
Ces trois parties, c'est un mouvement général dans l'histoire, c'est-à-dire que la première partie, qui est la plus courte, essaye de traiter de que peut-on dire des langues avant l'écriture, avant qu'on dispose de quelques documents que ce soit, c'est-à-dire que peut-on dire de langues dont tous les locuteurs sont morts et ils n'ont pas laissé de traces écrites. C'est pas évident, mais les linguistes y arrivent, ils ont des méthodes pour ça. Bon, la deuxième partie, c'est de l'invention de l'écriture qui s'est pas faite du jour au lendemain, mais enfin bon, et qui s'est faite à plusieurs endroits sur la planète, de l'invention de l'écriture à sa généralisation. Et la généralisation de l'écriture, c'est l'époque dans laquelle nous vivons. Ça a démarré, évidemment, avec l'imprimerie.
Et aujourd'hui, bien sûr, il y a énormément de langues dans le monde. Alors, autour de la question, pourquoi une telle diversité de langues? On l'a dit, plus de 6000 parlées et écrites aussi sur Terre. Première question, tout de suite, pour vous, soulevée par le bibliste polyglotte Thomas Romer, professeur au Collège de France sur la chaire des mondes bibliques et nouvel administrateur du Collège de France.
Quand on évoque les langues, le bibliste va évidemment penser à la tour de Babel, où en effet on explique la diversité des langues comme une sorte de sanction divine, parce que les humains voulaient en fait se faire l'égal d'eux ou des dieux. Et donc la question, est-ce que la diversité des langues, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction?
Votre réponse, Jean Cellier.
Je pense que c'est une bénédiction.
Ah oui.
Je ne vois pas en quoi ça pourrait être une malédiction. La malédiction, ce serait d'être unilingue. Mais on n'est pas obligé d'être unilingue. À partir du moment où on cultive le multilinguisme, où on apprend plus ou moins bien la langue de ses voisins, ça n'est plus une malédiction du tout. Au contraire, c'est un facteur d'enrichissement. Enrichissement réciproque, de comparaison culturelle, enfin tout ce qu'on veut. Et donc c'est une bénédiction.
Répétons-le, le multilinguisme est une bénédiction. Et justement, ça répond en partie à une question soulevée par nos auditeurs très intéressés par cette question des langues. Il y a notamment sur les réseaux sociaux à Dakar, Mamadou, qui nous dit « Mais finalement, une minorité des langues, principalement européennes, sont aujourd'hui les langues officielles de la majorité des États dans le monde. » Alors, comment expliquer ça? Pourquoi
Bon, c'est évident. C'est évidemment le résultat de l'expansion coloniale, entre guillemets, au sens large, depuis au cours de 4 siècles, disons. Bon, mais ça c'est évident. Mais aujourd'hui, les langues européennes ne sont plus des langues coloniales. Ce sont les langues de l'État, la langue du pouvoir. Mm-hmm. Bon, le pouvoir s'exerce en langue française pour des raisons qui sont devenues des raisons pratiques et non pas politiques. Parce que il faut administrer le pays, il y a toutes sortes de nécessités.
Est-ce qu'il y a une langue du pouvoir?
Mais c'est, il y a une langue du pouvoir. Bien bon, sûr. C'est vrai partout. Il ne faut pas se leurrer. Mm-hmm. Bon. Quitte d'une élite de privilégiés aussi. Bon, mais disons-le. Hein. Mm-hmm. Mais ce n'est pas pour ça que les autres langues dépérissent. Pas du tout. Au Sénégal, le Wolof, c'est la langue de tout le monde, y compris les dirigeants. C'est la langue quotidienne de tout le monde. Là où il y a une menace. Celles qui sont menacées, ce sont les petites langues africaines ou les langues africaines moins importantes, régionales, enfin, qui sont menacées, elles, pas spécialement par le français, mais par le Wolof.
Et oui, ça c'est à rappeler et à soutenir, notamment cette année internationale des langues autochtones, proclamée par l'UNESCO. Là, c'est un autre de nos auditeurs en Guinée qui nous le dit. Et quel est l'avenir de toutes ces langues autochtones qu'on essaye quand même de défendre aujourd'hui?
On essaye de les défendre. Il y a différentes façons de les défendre. L'une d'entre elles, bon, c'est le travail des linguistes. Et parmi les linguistes du siècle dernier, il y avait beaucoup de missionnaires, enfin, bon, des gens qui ont appris, qui ont appris ces langues, qui les ont mises par écrit, qui ont rédigé des grammaires, des dictionnaires, etc. etc. Bon, ça, c'est une façon, je ne dis pas de défendre, ça n'est pas nécessairement une façon de défendre la langue parlée, mais c'est au moins de la conserver. Bon. Les langues qui sont véritablement menacées aujourd'hui sont menacées par... c'est un problème écologique. Sont menacées par la vie moderne, la déforestation, les grands barrages.
C'est la biodiversité qui est menacée.
Voilà, ça, c'est comme la biodiversité, de la même façon. Mais toutes ces centaines et milliers de petites langues qui n'ont pas été étudiées ou très peu, ça, là, il y a un patrimoine intellectuel humain qui est très menacé, aucun doute.
Autour de la question de la naissance donc, et de l'évolution des langues, je propose une nouvelle question soulevée par un chercheur en informatique, Rachid Guerraoui, professeur à l'EPFL, École Polytechnique Fédérale de Lausanne. On l'écoute.
Je suis extrêmement intéressé par la naissance des langues. Je pense par exemple à l'italien qui était considéré comme une langue vulgaire, un dialecte, et puis qui, après Dante, est devenu presque en quelques années, si je ne me trompe, la langue officielle de la région de Florence, puis la langue italienne. Est-ce que ça se passe toujours comme ça? Je prends l'exemple du Maghreb, où la langue officielle est l'arabe, mais les gens ne parlent pas arabe, parlent autre chose qui est considérée aujourd'hui comme une langue vulgaire, un dialecte. Est-ce qu'un historien peut se pencher sur les questions, nous dire, dans quelques années, le maghrébin deviendra la langue officielle du Maghreb et ça ne sera plus l'arabe?
Non. Que pouvez-vous en dire en tant qu'historien, Jean-Céline?
Ce que je peux en dire, c'est que en tant qu'historien, je ne suis pas censé prévoir l'avenir. C'est pas mon boulot. En revanche, l'histoire du passage du latin aux dialectes italiens, puis du dialecte toscan, florentin plus précisément, à une langue italienne, très littéraire, très normée, très artificielle, mais écrite et utilisée. Peut-être, tout ça, je le raconte dans mon livre.
Absolument. Hein.
Et ensuite, au moment de l'unité italienne, il y a un changement, c'est-à-dire que les autorités politiques veulent une langue qui soit vraiment nationale et qui ne soit pas simplement une langue écrite littéraire d'une élite, mais qui soit la langue parlée de tout le monde, parlée et écrite. Parce que dans l'Italie unifiée fin 19e siècle, comme ailleurs en Europe, scolarité obligatoire. Donc là, il faut avoir une langue normée.
Voilà. On ne peut pas avoir une langue littéraire comme il y a l'arabe littéraire.
Avoir une langue littéraire parce que ça, ce n'est pas possible pour faire l'enseignement aux enfants. Et puis, il faut de toute façon une langue. Alors, il y a l'école, il y a aussi le service militaire. Enfin, il y a toutes sortes de
qui de font les
qui
langues.
Font que, oui, mais qui font que, à l'intérieur d'une nation, il y a une norme linguistique qui s'installe parce que elle est nécessaire.
C'est donc tout le temps en mouvement, finalement, ces langues. Parce que là, Rachid Guerraoui nous parlait de l'arabe littéral ou du maghrébin.
Oui,
ou
mais alors, mouvement. L'arabe, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une interférence entre l'arabe dialectal, c'est la langue parlée de tout le monde, l'ensemble de la société. L'arabe littéral, c'est un arabe... écrit et parlé, si on veut, si on y arrive, mais c'est difficile.
Par les élites.
Modernisé, parlé par les élites. Mais en plus, au Maghreb, il y a la concurrence du français. Donc, cet arabe cultivé est concurrencé par le français.
Comme langue culturelle.
Comme langue de culture. Donc, c'est une situation très particulière. Que va-t-il en advenir? Je ne sais pas.
Vous êtes historien, hein, je le rappelle.
Oui.
Mais vous nous... dans cet ouvrage monumental, on ne peut pas parler toutes les langues, parce qu'elles y sont pratiquement toutes, hein, et tous les continents. Sur le continent africain, tiens, vous citez par exemple le cas du Burkina Faso, la patrie des hommes intègres. Okay. Alors rien que étymologiquement, le Burkina Faso, le nom de ce pays s'écrit quoi? En deux langues, voire en trois. Alors, quand on dit burkinabé, c'est ça?
Burkina, c'est du moré.
Ça veut dire intégrité, honneur.
Les hommes intègres, oui. Burkina, Faso, c'est du Dioula.
Ça veut dire terre, patrie.
Ça veut dire pays, oui, terre. Et puis, Burkina B, donc, c'est le nom des habitants. Et là, c'est du peuple.
c'est quand même le nom du pays est oui, en trois langues. Donc là, ça dit quelque chose.
Ça a été inventé de toutes pièces.
Absolument.
Par le capitaine Sankara pour dans un but de fusion. De fusion de la nation burkinabé.
Mais il y a toujours un aspect aussi géopolitique. Déjà dans l'histoire des langues, elle a pu servir certaines idéologies. Je pense notamment du côté de l'Inde, à les nationalistes hindous qui mettent en avant en ce moment leurs origines aryennes. Or, voilà, quand on remonte l'histoire des langues et des peuples, c'est évidemment pas si simple que ça. Il y a parfois une tendance idéologique derrière l'histoire des langues.
C'est-à-dire que les langues peuvent être instrumentalisées dans des buts politiques. Bon, les origines indo-ariennes et en deçà indo-européennes des langues de l'Inde du Nord ne fait de doute absolument pour personne. Mais c'est de l'histoire des langues.
Bon,
ça ne donne pas à ceux qui les parlent une supériorité ou un droit ou que sais-je. C'est juste l'histoire des langues qu'ils parlent.
Mais attention quand même, vous avez dû être confronté à ça quand même en travaillant sur cette histoire des langues, au fait que ça peut être effectivement récupéré. Vous remontez le temps et vous nous montrez à quel point nos langues disent des choses de nous et qu'on dit des choses à travers nos langues.
Ça a été récupéré, notamment au XXe siècle. Les nazis ont récupéré la supériorité de la race aryenne en mélangeant race, langue et tout. Bon, mais je dirais ils en ont tellement fait que c'est fini. Hein. C'est fini. On ne peut plus confondre.
Mais c'est quand même assez étonnant.
J'y crois plus.
Tout ce que en lisant des morceaux de cet impressionnant ouvrage, ça nous démontre que les langues véhiculent énormément de choses, évidemment, sur nous, sur notre culture, notre manière de penser, notre manière de voir le monde. Elles se lient dans les différentes langues.
C'est-à-dire la manière de voir le monde qui est propre au français s'exprime en langue française. Mais est-ce que finalement on peut traduire quand même la pensée française ou la pensée anglaise ou on peut la traduire dans la langue du voisin et le voisin y peut entrer. Donc je ne suis pas convaincu que ce soit aussi important que ça. Enfin, je pense que
les frontières sont plus poreuses et il faut qu'elles soient poreuses.
Je pense que les langues sont traduisibles les unes dans les autres. Mm-hmm. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que, au fond, les langues, ce sont différents visages d'un même phénomène qui est le langage humain. Bon. Donc, on traduit. Alors, on peut traduire relativement facilement du français à l'anglais ou à l'allemand parce que les langues se ressemblent. Bon, traduire du français à une langue papou, c'est probablement plus difficile.
Mais
parce qu'il n'y a pas les ressources de vocabulaire. Mais théoriquement, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas.
Autour de la question des langues et des peuples qui les parlent, je propose maintenant de nous arrêter sur nos mots, M-O-T-S, avec Luciole sur RFI.
Vous écoutez.
Quand le silence hurle, se fait assourdissant, que des sons minuscules se font cris de géants. Nos mots sont des compas, nos guides sur l'océan, nos mots comme continents, il nous restera ça. Quand les nuages filent sans qu'on puisse les toucher, dans le bleu tendres îles, impossible d'accoster. Nos mots sont des trois mâts, naviguent dans ces nuées. Nos mots comme voiliers, il nous restera ça, il nous restera ça. Et quand le ciel pleure, se grise de sanglots, que les sons, les couleurs se prennent dans les rouleaux. Nos mots à bout de bras sont nos armes, nos flambeaux. Comme drapeau, il nous restera ça. Quand les portes sont fermées, que l'on reste au dehors. Quand on a beau frapper de nos mains, de nos corps, nos mots resteront là, gravés dans le décor. Nos mots comme trésor, il nous restera ça. mes lèvres sont scellées, que je ne sais que dire, quand je ne sais que pleurer, quand je voudrais sourire. Mes mots glissent tout bas pour éviter le pire, mes mots comme des soupirs, il me restera ça. Quand on voudrait fixer chaque souvenir, chaque nom, pour ne rien oublier de chaque sensation. Les mots sont nos combats, les mots sont l'émotion. Nos mots comme chansons, il nous restera ça.
Luciole sur RFI, nos mots et tout ce qu'ils véhiculent dans les différentes langues du monde. Nous sommes en compagnie de l'historien et géographe Jean Cellier qui vient de publier une formidable histoire des langues et des peuples qui les parlent. Mais jusqu'à quand, autour de cette question des langues, de leur extraordinaire diversité, de leur inventivité et de ce qu'elles disent de nous, on ne peut évidemment pas échapper à la question de leur disparition. À ce sujet, je vous propose, Jean Cellier, l'éclairage d'une autre historienne des langues, Rosaine Miline, qui dirige le programme Soro Soro, qui œuvre pour la sauvegarde de la diversité linguistique et culturelle dans le monde, les deux allant évidemment de pair. Notre reporter Inès Edel Garcia a interrogé Rosaine Miline en septembre dernier à la Cité des Sciences, à la Villette à Paris, à l'occasion d'une série de conférences. Est-ce ainsi que les langues vivent ?
On dit que sur les 6 ou 7 000 langues qui sont parlées aujourd'hui, il y en a la moitié qui est en train de disparaître. Donc ça fait peu ou prou 3 000 langues qui seraient en train de disparaître. Je fais toujours le distinguo entre les langues qui disparaissent et les langues qui meurent. Pour moi, c'est différent. Parce que, par exemple, le latin est une langue morte, mais ce n'est pas une langue disparue. Si on voulait ressusciter le latin demain et se mettre à parler latin, on pourrait le faire parce qu'il y a énormément d'écrits, il y a de la documentation. Par contre, la plus grande partie des langues dans le monde ne sont pas encore écrites. Donc forcément, les langues qui ne sont pas écrites sont plus vulnérables que les autres.
À la fois, on n'a jamais été aussi polyglotte qu'aujourd'hui, et en même temps, les langues n'ont jamais été aussi menacées qu'aujourd'hui. Comment expliquer ce paradoxe, Rosaine Miline ?
Le monde est devenu tout petit. Les moyens de communication sont pléthoriques. Internet couvre le monde entier et qu'on se retrouve effectivement avec quelques langues qui sont non seulement dominantes, mais hyper dominantes. Le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le portugais laissent peu de place aux langues qui sont moins parlées. Donc forcément, pour réussir socialement, pour progresser dans la vie, pour un avenir meilleur, il est nécessaire de parler ces langues dominantes. Du coup, la facilité fait que les gens laissent tomber leur petite langue. Et je parlais tout à l'heure du Wolof au Sénégal. C'est une des langues du Sénégal qui est en train de recouvrir tout le pays. Et on se retrouve avec non pas le français qui menace les autres langues du Sénégal, mais le Wolof quelque part qui risque à la longue de supplanter les autres langues du Sénégal.
Comment justement préserver la diversité de notre patrimoine linguistique ? Quelles sont vos recommandations ?
Les langues qui sont dominées, qui ont donc été rétrogradées très souvent, ne peuvent pas s'en sortir sans volonté politique. Donc toutes ces langues minorisées n'auront une chance de survie que s'il y a une très forte volonté de faire en sorte qu'elles puissent se développer et prospérer. Ça passe par des décisions politiques, ça passe par des décisions de mettre de l'argent là-dessus pour qu'elles soient par exemple enseignées dans les écoles, que ce soit ici ou dans des pays d'Afrique ou ailleurs. Eh bien, il faut former des enseignants.
Rosaine Miline, est-ce que vous avez une question à poser à notre invité en studio, Jean Cellier ?
Alors, Jean Cellier, on peut parfois parler plusieurs langues sur quelques kilomètres carrés. Comment est-ce qu'on fait pour mettre ça sur des cartes ?
Comment avez-vous fait, Jean Cellier ?
Je n'ai pas fait de cartographie au kilomètre carré près, parce que ça, c'est quasiment impossible. Les cartes de linguistiques, j'en ai consulté beaucoup,
j'imagine,
sont d'une façon générale très approximatives, à la fois parce que c'est un phénomène diffus dans l'espace. Hein, où sont les gens qui parlent une langue ? Ils bougent. Bon, en plus, les limites ne sont pas nettes. On ne passe pas tout d'un coup en traversant la rue d'un côté où on parle telle langue et de l'autre côté.
Bien sûr, bien sûr.
Donc c'est très difficile la cartographie des langues. Et qu'importe, à partir du moment où on sait où est l'essentiel de la population qui parle cette langue, je parle de petites langues.
Oui, de langues vernaculaires.
Des petites langues qui sont dispersées en Afrique ou dans les pays tropicaux en général.
Donc les langues bougent, et les frontières sont poreuses évidemment entre les gens, on ne passe pas en traversant le trottoir d'une langue à une autre. Les langues elles-mêmes, elles ne cessent d'évoluer. En fait, pour revenir sur cette question de la disparition, de la préservation des langues, quand est-ce qu'on voit qu'une langue est menacée? Quand elle n'est plus transmise finalement, de parent à enfant, quand elle n'est plus parlée par les gens âgés?
Oui, alors l'UNESCO travaille beaucoup sur cette question et publie un atlas. Un atlas des langues en danger dans le monde, bon, c'est très bien fait. La cartographie est très approximative, mais il s'en explique. Mm-hmm. Bon. Mais la définition, effectivement retenue par l'UNESCO, c'est qu'une langue est menacée à partir du moment où elle n'est plus transmise par les parents aux enfants en tant que langue maternelle. Donc là, elle est en danger de disparition, et elle disparaît quand le dernier locuteur natif meurt. Et ce n'est donc plus une langue vivante, puisque personne ne la parle plus l'ayant apprise petit. Mais moi, je voudrais revenir sur la question de la langue morte. Le latin, je ne suis pas d'accord avec cette définition,
oui.
Langue morte, langue vivante. En réalité, le latin n'est pas mort. Le latin a divergé, à l'époque carolingienne en gros, le latin a divergé en dialectes régionaux, les parlés romans, qui eux-mêmes, ensuite, ont évolué chacun dans son coin. Et c'est ainsi que sont nés petit à petit, très lentement, de génération en génération, les actuelles langues romanes, dont le français, le portugais, l'espagnol. Mais il n'y a eu à aucun moment de mort, de disparition. Il y a eu simplement une évolution.
Une évolution, une transformation.
En revanche, pour en rester à l'Italie, l'étrusque, qui était la langue la plus importante au début de l'histoire romaine. Les Étrusques étaient beaucoup plus civilisés que les Romains. Bon, l'Étrusque a disparu totalement. On a des écrits, on sait les lire parce qu'ils sont en alphabet. Un alphabet qui est quasiment l'alphabet latin, qui est inspiré de l'alphabet étrusque, peu importe. Mais on sait lire, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On ne sait... Là,
c'est une langue morte.
Vraiment.
Finalement, on est très en lien avec, quand on parle de la biodiversité, cette diversité des langues, on est en lien avec ça. Parce que finalement, ce qui est vivant, c'est ce qui se transmet dans le vivant, sous une autre forme.
Bien sûr, la vie implique une évolution.
Elle implique une évolution et vous n'êtes pas d'accord non plus, c'est assez étonnant d'ailleurs dans votre histoire des langues, c'est qu'on n'est pas comme d'habitude, j'ai envie de dire, autour des langues qui disparaissent, autour de l'anglais par exemple qui est en train de tout, la guerre des langues avec l'anglais qui serait en train de gagner partout. Vous n'êtes pas sur cette longueur d'onde là, j'ai envie de dire.
Non, pas du tout.
Jean Cellier.
Mais je ne suis pas sur cette longueur d'onde parce que je pense que l'avenir de l'humanité, c'est le multilinguisme. Bon, il faut absolument se dire qu'il est normal et naturel de parler plusieurs langues. Les Africains n'en ont jamais douté, pour leur part.
Il est normal de parler plusieurs langues. Vous vous intéressez aussi énormément, on y reviendra, mais à tout ce qui est créole, pidgin, à ces transformations. On parle de langues qui disparaissent.
Oui.
J'ai envie de dire en vous lisant qu'il y en a qui naissent.
Oui, l'histoire des créoles. Mais moi, celle qui m'a le plus frappé, parce que je ne la connaissais pas quand même, c'est l'histoire des pidgin mélanésiens, du genre du Bislama au Vanuatu. C'est à l'origine... Nés sur des plantations de canne à sucre en Australie, des travailleurs venus des Nouvelles Hébrides de l'époque, dans des conditions de... Bon, enfin bref, c'était pas de l'esclavage, mais enfin, c'était un petit peu. Bon, mais qui ont donc, sur les plantations, développé une espèce de baragouin de l'anglais, et qui ensuite rentraient chez eux, ou dans l'archipel de Vanuatu, on parle une centaine de langues différentes, sont arrivés avec leur pidgin et en ont fait une langue véhiculaire qui s'est répandue dans l'archipel très rapidement et est devenue la langue nationale.
Voilà comment donc, une langue peut très vite devenir une langue.
Tout enfin, à fait. Tout
un
à
baragouin, on revient sur ce mot. Baragouin, c'est du breton, ça.
C'est
baragouin.
Du breton, mais c'est, je vous l'ai dit, c'est du breton, mais c'est un vocabulaire de la marine. Donc, les navigateurs qui se allaient dans les îles et qu'entendaient les esclaves ou d'autres parler, non, ils appelaient ça un baragouin. Bon, et c'était un créole en voie de formation.
On voit donc aujourd'hui des langues qui naissent. À nos auditeurs, par contre, Arona Diallo, il nous demande si la langue peul est beaucoup parlée aujourd'hui.
Ben, je pense que oui, la langue peul est beaucoup parlée. Alors, la langue peul, c'est quelque chose de très très particulier parce que ses locuteurs sont répartis du Sénégal, voire de la Mauritanie. Au Cameroun.
C'est énorme.
C'est une population de
nomades.
De nomades, de pasteurs, enfin d'éleveurs, qui s'est diffusée au cours des siècles dans une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la langue peul, elle est probablement diverse. Enfin, il y a des variétés.
Selon où on est et selon les lieux. Alors autour de la question de toutes ces langues et de tous les peuples qui les parlent, je propose maintenant un petit arrêt sur l'image d'un film, le film Atlantique de Mati Diop, Grand Prix du jury à Cannes cette année. C'est une première pour un film réalisé entièrement en Wolof. À ce sujet, je propose d'écouter un extrait du reportage réalisé à Dakar avec les acteurs du film par notre correspondant William Delesseux.
Mati Diop a également choisi de faire jouer les acteurs en Wolof, leur langue maternelle. Madumbo, un des comédiens du film.
C'est important parce que ça nous rappelle qu'on est toujours sénégalais et on n'est pas obligé d'utiliser les autres langues pour pouvoir montrer ce qu'on est capable de faire. Par exemple, là je suis plus à l'aise à faire un film en Wolof qu'en anglais ou en français, bien vrai que je suis bilingue sur ce côté-là. Voilà, donc c'est une opportunité pour les Sénégalais de continuer à faire des films en Wolof et d'exporter notre langue en fait.
Est-ce que tu sais que tu dois te marier dans 10 jours avec Omar? C'est quand même Dieu?
Oui, je veux dire que Souleymane.
3 mois, je ne sais pas, 4 mois. Je ne sais pas.
Extrait d'Atlantique, très beau film, grand prix du jury au Festival de Cannes. Pour ce film, je le rappelle, tourné entièrement en Wolof, c'est tout de même assez rare, et qui nous dit du coup autre chose de la réalité de ce quartier de Dakar, de l'importance des langues pour faire quand même passer quelque chose de très profond. Vous le disiez, hein, Jean Célie, on peut traduire toutes les langues, mais il y a quelque chose d'intrinsèque qu'on approche que par et avec la langue.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'est certainement vrai du Wolof. Je pense que ce qui est important dans notre société, alors là, je dis vraiment aujourd'hui, je vais faire de l'actualité, c'est le développement de l'urbanisation. Et notamment en Afrique, les capitales, les principales villes deviennent énormes. Bon, les nombres d'habitants se comptent par millions. Et dans ce contexte urbain tout à fait nouveau dans l'histoire de l'Afrique, hein, tout à fait nouveau, il y a nécessairement un impact linguistique. Parce que, à Dakar, beaucoup d'habitants de Dakar sont sénégalais. Et finalement, le Wolof, qui était déjà la langue dominante à Dakar dans le temps, n'a pas trop de peine à devenir la langue véhiculaire de tous. Mais à Abidjan, où 7 millions d'habitants, ils viennent de tous les coins de Côte d'Ivoire et d'autres pays africains, la diversité linguistique est considérable. Et qu'est-ce qui, finalement, devient la langue véhiculaire quotidienne à Abidjan, autant que je sache? C'est un français très, très, très local.
Le français de Moussa.
Voilà. Bon. Et donc, là, il y a certainement une langue qui est en train de naître sous nos yeux. Alors, une langue ou une variété de langues, mais on est dans la même situation qu'à l'époque carolingienne avec le latin. Le français reste sur son piédestal, mais le bon peuple, lui, il le parle à sa façon, de la même manière que le bon peuple sous Charlemagne parlait le latin à sa façon. Et ça commençait à s'en distinguer nettement.
C'est ça. Et finalement, comme vous le dites, c'est le bon peuple qui a gagné. Et au fond, les langues, elles ont une vie à elles.
Le bon peuple a gagné. Il a mis du temps, d'abord.
Il a mis du temps.
Et le latin a très bien résisté au fil des siècles. Bon, comme quoi... moi, j'aime beaucoup cette comparaison. Parce qu'elle est juste.
Ouais, oui. Et c'est finalement, c'est de l'histoire en marche, c'est de l'histoire culturelle en marche, et qu'on voit véritablement sous nos yeux. Et il n'y a vraiment aucun mépris, aucune hiérarchie à faire. Parce que c'est quand même ça que j'entends dans nos auditeurs sur les réseaux sociaux qui disent « Mais on est obligé d'apprendre des langues étrangères. Est-ce qu'il y a une guerre des langues ?» En fait, il n'y a pas d'hiérarchie à faire. Il faut garder les grandes langues et les petites langues. Enfin, tout est important.
Mais bien sûr. Et puis, laisser la spontanéité s'exprimer et ne pas dire ça c'est du français pas correct, il faut pas parler comme ça. Non, laissez faire.
C'est ça, parce que ce qui est très étonnant, c'est l'inventivité, la porosité, l'invention formidable qu'il y a dans toutes ces langues qui naissent sous nos yeux. Alors vous avez parlé des créoles et des pidgins mélanésiens, mais il n'y a pas que ça. J'ai envie de vous faire écouter une musique qui devrait vous inspirer en lien et dédiée à tous nos amis auditeurs en Haïti qui nous écoutent à Port-au-Prince sur 89.3. Je vous propose Jean Cellier, un des plus beaux morceaux créole haïtien de l'année, extrait de l'album Radio Civelle, Mélissa Lavo sur RFI. Lavo sur RFI en créole haïtien autour de la question de l'histoire des langues et des peuples qui les parlent. Titre de l'ouvrage de notre invité, le géographe et historien Jean Cellier. Nous allons maintenant nous arrêter sur cette formidable vitalité des langues créoles auxquelles vous consacrez d'ailleurs de nombreux articles. On va s'arrêter avec un formidable youtubeur réunionnais. C'est Le Litchi, joli nom. Extrait de la vidéo que Le Litchi a réalisée pour une émission spéciale francophonie de TV5 et Réunion Première. Quand parle-t-on créole ?
Vous savez comment on dit bonjour en créole réunionnais ? Bonjour. Comme toute île isolée avec une population de différentes origines, nous avons créé un créole propre. Sur une base de français, nous avons rajouté des mots malgaches, tamouls, portugais, gallo, normand et même des termes marins. À La Réunion, on peut dire qu'on amarre nos lacets de chaussures. Mais, on a fait beaucoup plus fort, puisque sur un territoire de 2500 km², nous avons réussi à créer différents créoles. Il y a des différences entre le nord et le sud, entre les hauts de l'île et les bas, entre les grands-parents et les petits-enfants. Du coup, nous oscillons entre le français et le créole tout au long de la journée pour pouvoir échanger. Au travail, par exemple, on va préférer utiliser le français. Ça fait beaucoup plus sérieux. Mathias, vous pouvez me passer le dossier de Monsieur Payette, s'il vous plaît, je dois vérifier les correspondances. Alors que dans l'intimité de la maison, on va employer le créole. Mathilde, peut travailler au journal pour moi, il faut me ça vérifier résultat cheval. Sauf peut-être les jeunes amoureux qui préfèrent parler en français quand ils essaient de séduire. Ma chérie, mon amour, mon trésor. Mais dès la première dispute, le créole revient à la charge. Espèce giment, espèce maquerelle. C'est dans la colère que l'on entend le vrai réunionnais. Le créole s'utilise fortement dans le milieu artistique. Les chanteurs d'ailleurs adorent exagérer le créole qu'ils utilisent dans les chansons pour montrer qu'ils sont de véritables défenseurs de la culture réunionnaise. Si bien que certaines chansons deviennent incompréhensibles pour certains créoles. Mon pot il tient pas dans mon l'esprit il est comme de l'eau dans le goni, traverse il va quoi. On l'a compris, qu'est-ce qu'il a dit ? Aucune idée, mais le galet chanteur c'est forcément un poète, non ? Le créole réunionnais a tendance hélas à se franciser avec le temps et les nouvelles technologies ne vont pas aider. Il faudrait peut-être créer une académie du créole réunionnais pour inventer des mots en fonction des nouveaux besoins. Mais bon, notre patois n'est pas encore voué à disparaître puisqu'il y a de plus en plus de défenseurs, les gens n'ont plus peur de parler créole même si le français reste privilégié dans certaines circonstances, et surtout, le créole est utilisé maintenant dans les publicités. Mais que ce soit en français ou en créole, le plus important c'est qu'on puisse consommer, communiquer.
Tout est dit, magnifique, hein, par le litchi youtubeur réunionnais. Ah. Le créole, tous les créoles, alors là, il y a en plus avec un humour formidable, mais tous les créoles vous intéressent, Jean Célier.
Oui. Le créole réunionnais a des origines dans une économie de plan esclavagiste de plantation jusqu'à la première moitié du 19e siècle. Mais il y a aussi... Alors, les Pidgin mélanésiens, ils sont nés à la fin du 19e, mais il y a aussi des langues en Afrique qui sont en train de naître en ce moment à partir de Pidgin de marins, de commerçants sur les côtes, etc. Et notamment au Nigeria, Le Nigerian Pidgin English. Alors ça, c'est avec l'accent de la BBC.
Mais c'est vraiment une langue
localement, ça s'appelle Naija. Mais comme le Nigeria est un grand pays, ils ont des moyens, ils ont, les défenseurs du Naija ont fondé une académie de la langue Naija.
Académie de Pidgin. Et il faut faire attention parce que le Naija du Nigeria n'est peut-être pas le même que le Naija parlé un peu plus bas ou un peu plus haut. Il y a beaucoup de Naija.
Non, il y a effectivement. Pour l'instant, oui. C'est pourquoi une académie permettrait un peu de mettre de l'ordre.
Oui.
C'est peut-être un peu leur idée. Dès lors qu'on commence à réguler, bon, ça, je ne sais pas, c'est leur problème. Mais au Cameroun voisin, on a une langue cousine qui s'appelle le Kamtok. Hein? Cameroonian talk, Kamtok.
Kamtok.
On devine.
Pour parler le Camerounais, le Pidgin. Entre créole et Pidgin, c'est à peu près la même chose.
C'est-à-dire qu'en fait, non, en pratique, Pidgin, c'est un mot d'origine chinoise, ça voulait dire business.
Hein?
Dans le Pacifique, ça vient de business, prononcé par des Chinois.
Pidgin,
créole, ça vient du portugais, de l'espagnol. Mais ça, c'est appliqué, créole, c'est appliqué. Au blanc des Antilles. Bon. Donc, c'est des mots qui sont très ambigus. Aujourd'hui, en linguistique, aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Un pidgin et un créole, c'est la même chose dès lors qu'il est transmis des parents aux enfants et donc créolisé et donc devenu une langue entière. Quoi.
Entière et en devenir. Vous êtes au fond plutôt optimiste, Jean Célier, finalement, sur la question des langues et de leur avenir, puisqu'on voit qu'elles sont en constante transformation, qu'au fond,
Je ne suis pas optimiste en ce qui concerne l'avenir des langues papoues ou des langues de Nouvelle-Guinée ou de langues où... là, il y a un problème équivalent à celui de la biodiversité. Là, la menace est considérable et elle est réelle.
Il n'y a pas assez de locuteurs.
Pas assez de locuteurs et le monde moderne est agressif. Bon, c'est pas la peine de développer, c'est clair. Mais en revanche, toutes les langues qui sont minorisées, comme disait la dame, à juste titre, toutes ces langues qui sont minorisées, mais qui sont écrites, qui ont été étudiées. On peut les faire revivre si on veut. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est même très différent. Il y a des exemples en Angleterre, enfin dans les îles britanniques, le cornique, une langue celtique des Cornouailles, la dernière locutrice native est morte à la fin du XVIIIe siècle. C'était une poissonnière. Bon. Mais aujourd'hui, il y a des passionnés qui ont fait revivre le cornique et qui se parlent cornique entre eux, qui s'écrivent en cornique, etc. Il se passe la même chose à l'île de Man, dont le dernier locuteur est mort en 1874, je crois aussi. Enfin bon. Mais on peut parfaitement.
Il suffit d'une volonté.
Il faut de la volonté, il faut de la passion, il faut s'y mettre, mais c'est parfaitement possible.
Il faut de la volonté, de la passion, c'est ce qu'il vous a fallu, j'imagine, Jean Cellier. Oui, de la passion surtout. Pour écrire cette histoire des langues, quelle, parmi ces multiples histoires qui sont des histoires de l'humanité, laquelle vous a, je ne sais pas comment dire, le plus surpris, étonné, réjoui, fâché? Est-ce qu'il y en a une petite dernière à nous faire partager, là, d'histoire de langue? Il y en a tellement.
Je suis désolé parce que ce qui m'a le plus ravi, c'est quand même les pidgins et ce qui se passe. Enfin, la naissance de langues nouvelles sous nos yeux et des langues importantes parlées par des communautés nationales entières, enfin, etc.
Moi, ça, c'est ça. Ça, il y a de quoi réjouir.
C'est ça qui m'a.
Et finalement.
Parce que je ne le savais pas. Je ne le savais pas avant, je ne me rendais pas compte. Enfin, bon.
Que toutes ces langues naissent, et finalement, en fermant votre ouvrage, on se dit, mais surtout ne pas se cantonner à une seule langue. Et finalement, ceux qui le savent au Sud, hein, qui ont gardé leur langue, il ne faut pas se cantonner à une seule langue. C'est vraiment
pas.
Le multilinguisme qui est notre avenir et notre
surtout
traduction
pas.
À nous possible.
Surtout pas, parce que si on abandonne telle ou telle langue, ou toutes les langues. Alors à ce moment-là, on va dire, oui, mais l'anglais domine. Mais si l'anglais domine, et il domine effectivement sur le net, etc., et qu'on s'incline, bon, enfin, il ne faut pas. Il faut cultiver toutes les langues.
Merci infiniment d'être venu en direct nous dire de cultiver toutes les langues et toutes nos langues sur RFI. Je rappelle le titre de votre ouvrage formidable, hein, Une histoire des langues et des peuples qui les parlent, ouvrage monumental, très original, formidablement inspirant, qui devrait faire référence et qui vient de paraître aux éditions La Découverte. Et puis je vous renvoie aussi, fidèles amis auditeurs de RFI, sur Écoutez le Monde, orchestré par Monica Fantini sur nos ondes et notre site. Merci Jean Cellier, et vous revenez quand vous voulez nous parler dans toutes les langues du monde. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Vous pouvez également nous retrouver sur Spotify en podcast. Au plaisir de vous retrouver lundi avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour de nouvelles interrogations sur nous-mêmes et sur nos frères de la forêt, les chimpanzés, en compagnie de la célèbre primatologue Sabrina Krief. D'ici là, surtout, portez-vous bien, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, et surtout parlez toutes les langues que vous pouvez à l'écoute de RFI. C'est bientôt l'heure de votre journal.